parole. La parole de Dieu, c'est principalement sa lumière. La lumière, c'est qui ? C'est Jésus. Et Jésus est la parole. Alors, il y a quelque chose qui a changé chez moi. Les lunettes, hein ? Vous aimez ? Bon, avant j'avais des lunettes aussi et je les mettais tout le temps, mais je ne voyais pas jusqu'au deuxième rang parce que c'était des lunettes de lecture, mais je les gardais toujours sur le nez. Alors méfiez-vous, ceux du fond là, si vous endormez, aujourd'hui je vous verrai. Qui se dit chrétien ? Alors qu'est-ce que ça veut dire être chrétien ? Alors croire, suivre le Christ, être le Christ, avoir la foi, être sauvé, hein, c'est avoir la vie éternelle. Bon, c'est des. Mais être chrétien, c'est celui qui croit et qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Hein, ça, La réalité, il y a Wikipédia, je regardais, un chrétien est une personne adhérent aux doctrines et pratiques du christianisme, qui croit en la divinité et suit l'enseignement de Jésus de Nazareth, rapporté par les évangiles. Le mot chrétien provient du mot grec Christos, traduction du mot hébreu Messie, et au centre de la foi chrétienne est la bonne nouvelle selon laquelle l'humanité a espoir de rédemption à travers l'enseignement de Jésus et sa mort sur la croix, hein, c'est ça, être sauvé, c'est notre espérance. Les chrétiens croient que Jésus est le Messie annoncé dans la Bible hébraïque, dans la Bible juive. Hein. Ça, c'est Wikipédia. Être chrétien, c'est celui qui marche à la suite de Jésus-Christ. Celui qui est disciple de Jésus-Christ. Et quand je dis ça, est-ce que je comprends bien ce que cela signifie être disciple de Jésus-Christ ? Alors, on va se laisser éclairer par la lumière, par la parole. Et je vous demande de prendre Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Et c'est un texte, je dirais, radical et subversif par ce qu'il dit. Et écoutez bien. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, ceux qui le suivent là, Jésus se retourne, et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père ou à sa mère, et d'autres traductions dit sans haïr son père ou sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je cherchais un texte à partager qui puisse aller avec le thème que j'avais et que nous étions engagés à présenter ce matin. Et puis, je suis tombé sur ce texte et je me suis dit, je vais quand même pas présenté ça pour le message de rentrée, quoi. C'est quand même... Et finalement, je me suis dit, non, le Seigneur a mis dans mon cœur, non, c'est ça qu'il faut que tu dises, c'est ça. La rentrée, c'est toujours un moment où on a envie de faire bien, quoi. Enfin, je prends toujours cet exemple et je sais que Patrick... m'entend bien là-dessus, d'ouvrir un nouveau cahier et avoir un nouveau stylo et de commencer quelque chose et dire bon, je vais faire bien. Et puis premier jour et on commence, c'est parfois pas de sa faute, c'est le prof qui dit non, c'est pas ça qu'il fallait écrire, non, vous pouvez effacer. Oh, et puis on doit faire une rature et là ça commence. Alors vous dites c'est pas grand chose, mais ça peut être un caillou dans la chaussure. Vous savez, un caillou dans la chaussure, c'est pas grand chose. C'est qu'un caillou dans une chaussure. Mais ça vous pourrit toute une promenade dans les montagnes où il y a des beaux paysages à voir et vous êtes avec des bons amis. Hein, vous allez vous arrêter pour manger un pique-nique que vous aviez ensemble, mais non, vous avez un caillou dans la chaussure. Et votre journée là, elle est pourrie, parce que vous avez un caillou dans la chaussure. Ce n'est qu'un caillou. Ce n'est qu'une rature sur un cahier. Mais ça suffit. Ça suffit à pourrir la vie. À pourrir une journée. À pourrir une rentrée. Le texte fait suite ici de Jésus, il nous est présenté par Luc, il fait suite à un discours où Jésus est invité à un repas avec ses disciples chez un des chefs pharisiens. Et alors qu'il est à table, Jésus il énonce certaines exigences pour vivre une vie de gratuité. Gratuité de l'amour. Ne pas choisir la première place dans les repas. Inviter à table les exclus. Mais dans notre texte ce matin qu'on vient de lire, les exigences sont portées à l'extrême. Et c'est ça qu'on va regarder. Faut pas oublier que lorsque Jésus s'avance comme ça et qu'il y a des disciples derrière, il va à Jérusalem et il va vers sa passion, il va vers sa souffrance, il va vers sa mort sur la croix. Par trois fois, il y a l'expression dans le texte qu'on a lu, « Celui-là ne peut pas être mon disciple. » Et ça rythme le passage. « Celui-là ne peut pas être mon disciple. » Qu'est-ce que c'est qu'un disciple de Jésus-Christ? Alors, on l'a dit hein, ce matin, hein, c'est celui qui suit Jésus, mais selon la lumière de la parole. Le mot français, et là on va faire un petit peu, moi je ne parle pas grec, hein, mais donc j'ai regardé ça et je ne parle pas araméen non plus, mais c'est intéressant de regarder un petit peu parce qu'il y a des versions qui disent, qui changent un petit peu les mots pour leur donner un sens à notre époque. Le mot français du mot disciple vient de la racine dec ou doc, et ce qui a donné pour exemple le mot doctrine, hein. Donc, le mot grec didakein signifie enseigner. Et ici, nous avons un autre mot qui est employé dans ce texte, c'est mathétès, donc qui vient d'un verbe signifiant aussi enseigner, instruire. Et dans la langue de Jésus, l'araméen, c'était talmide qu'il emploie. Et probablement, il emploie ce mot talmide. Et c'est Chouraki, dans sa traduction de la Bible, qui traduit cela par apprenant. Celui qui va être un appreneur, hein, c'est un disciple, c'est celui qui suit et qui apprend. Le Talmid, au sens juif du terme, c'est celui qui reçoit l'enseignement de son rabbi, de son maître, et il aura la mission de transmettre cet enseignement à son tour. Et l'appreneur va apprendre le commentaire de la Torah que lui donne son maître, que son maître fait, et il va l'apprendre surtout à la vivre avec son maître. Donc, ils sont ensemble. La Torah, c'est la règle de vie. C'est pas les règles de vie, c'est la règle de vie. C'est pas ce qu'on suit à la lettre. Non, c'est ce qui nous donne la direction de la vie. C'est ça la Torah. Et ainsi, l'enseignement du rabbi, de l'enseigneur, c'est pas seulement un enseignement théorique, mais c'est un enseignement pratique. C'est pourquoi l'appreneur, pour apprendre à vivre comme son maître, va vivre avec son maître. Vous comprenez l'idée du mot disciple ? C'est pas vivre seulement des enseignements, mais c'est vivre avec Jésus-Christ. C'est vivre avec son maître. Et il apprendra tout en écoutant le rabbi, mais aussi en le regardant vivre. Il y a une autre expression typique juive qui décrit le disciple comme celui qui accompagne, celui qui suit son maître. Et c'est celle-là qu'on entend souvent. Et si on y est disciple de Jésus-Christ, on suit Jésus-Christ. Pas seulement son enseignement, mais on suit sa vie. Les deux disciples de Jean-Baptiste qui voient Jésus se faire baptiser, et Jean-Baptiste leur dit « Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers », il dit « C'est lui qu'il faut suivre ». Et ils vont vers Jésus, et Jésus leur dit « Que cherchez-vous ? » Et ils lui disent « Rabbi », ce qui se traduit par « enseigneur », « Où demeures-tu ? » Et Jésus leur répond « Venez et voyez ». En Jean, chapitre 1, versets 37 à 39. Le rabbi va formuler, et ici, trois exigences qu'il pose pour nous. S'ils veulent venir à sa suite, si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, il faut haïr ses proches, porter sa croix et renoncer à tous ses biens. Et on comprend qu'avant de s'engager dans une voie aussi radicale que ce que Jésus demande, il faut d'abord s'asseoir, si on n'est pas déjà en fuite, ou si on est encore debout. Parce que quand on entend ça, on tombe par terre. Et ces exigences, elles sont vécues par le maître. Elles sont vécues par le maître. Un disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître, dit Jésus un peu plus tôt en Luc chapitre 6, verset 40. Et à son tour, le disciple deviendra un maître et devra vivre quotidiennement les mêmes exigences pour les enseigner à ses appreneurs. Alors, comment on doit comprendre ces exigences ? Si quelqu'un vient vers moi et ne hait son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, il ne peut être mon disciple. On a vu que rencontrer le Seigneur, et on l'a encore dit ce matin, c'est pas une rencontre ponctuelle, quoi, du dimanche matin pendant 2 heures ou éventuellement le mardi soir ensemble. On le rappelle souvent, mais on le rappelle parce que on en a besoin de se le rappeler. On vient écouter Jésus-Christ ou sa parole le dimanche matin. Mais c'est parce qu'on a choisi Jésus comme notre guide et notre maître dans cette vie. Et ce maître Jésus, est-ce qu'il serait un gourou despotique voulant s'accaparer nos libertés ? Parfois, quand on regarde ce texte, on se dit mince, on dirait que, parce qu'on l'entend dans ce monde des gourous qui veulent ce genre de choses. Que signifie cette exigence d'haïr ? Est-ce que c'est simplement un langage provocant qu'utilise Jésus pour faire choc, quoi ? Alors, il faut noter d'abord que le mot « haïr » dans la Bible et notamment dans les livres de la sagesse, ça ne signifie pas « avoir de la haine ». Il s'emploie pour exprimer parfois un amour moindre. Et je vais vous raconter une histoire qu'on trouve dans Deutéronome. Ce n'est pas une histoire, c'est une loi. Et ça va vous faire rire ou peut-être frémir. Mais voilà où ils en étaient à l'époque. Lorsqu'un homme a 2 femmes... l'une qu'il aime et l'autre qu'il hait. Si l'une comme l'autre lui donne des fils, et si l'aîné est le fils de la femme qu'il hait, alors au jour où il donnera ses biens en héritage à ses fils, il ne pourra pas donner le droit d'aînesse au fils de la femme qu'il aime, au détriment de l'aîné qui est le fils de la femme qu'il hait. On se dit, bon, c'est la loi, hein, c'était ce qui était donné comme déclinaison des 10 commandements. Dans la langue juive, il n'y a pas de comparatif. Et l'expression « haïr » veut dire « aimez-moi ». Ou, on verra, « aimez mal ». Et dans la citation de Deutéronome, « haïr » doit se comprendre comme « aimez-moi ». Et dans certaines traductions, dans notre texte, comme je le lis dans la traduction ici, c'est « si quelqu'un vient à moi sans préférer son père ou sa mère ». Quand même, Matthieu dit dans une autre formulation, donc il le dit hein, même dans d'autres traductions, « qui aime son père et sa mère plus que moi ». Bon, d'accord, je peux comprendre cette explication que « haïr », ça signifie « aimer moins ». Mais pourquoi faudrait-il aimer moins son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants que Jésus ? Et cela a rejoint une autre réplique de Jésus qui, on lui annonce « Ta mère, tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. » Il répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent en observant la parole de Dieu. » Quelle est la raison de cette attitude de Jésus face aux liens familiaux ? Eh bien, c'est que l'amour familial n'est pas pour lui l'expression la plus parfaite de l'amour. Réfléchissez un petit peu. Au 5e siècle, il y avait un penseur et évêque qui s'appelait Augustin, qui disait qu'il y a 3 degrés dans l'amour. Il y a aimer, 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 être aimé, et aimer. Bon, bien sûr, le 3e degré, l'amour purement gratuit, c'est le véritable amour, à la manière de Dieu. Aimer, 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 être aimé, aimer. L'amour familial se situerait facilement dans « aimer, être aimé », car il peut comporter souvent une part de réciprocité. Hein. J'aime ma mère parce qu'elle m'aime, elle m'aime. J'aime mes enfants parce que voilà, ils me le donnent en retour. Aimer des gens qui nous aiment, hein, ça c'est bien, ça c'est l'amour familial. Et cela peut donc nous laisser dans l'illusion quant à notre capacité à aimer d'un amour vraiment gratuit. L'amour des pauvres, au contraire, sera, lui, un amour gratuit. C'est Jésus qui l'enseigne juste avant notre texte, hein, d'inviter les pauvres, parce que comme ça, ils ne peuvent pas vous le rendre. C'est une manière de donner gratuitement, de tester cet amour, de dire « Jusqu'où, Seigneur, tu m'appelles à aimer ? Quel est l'amour que tu mets dans mon cœur pour les autres ?» Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteront en retour, et cela te sera rendu. Luc 14, 12. Qui fait cela ? Aux riches qui pratiquent fidèlement les préceptes de la Torah, il dira « Seule une chose encore te manque, tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Qui fait cela ? Et toute l'introduction des béatitudes qui martèle ce thème de gratuité toujours, Matthieu dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », Luc lui dira au Luc 6 « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». La miséricorde, c'est cet amour qui est gratuit, c'est cet amour qui est inconditionnel, qui est le vrai amour, celui qui ressemble vraiment à l'amour de Dieu. Alors, la demande de Jésus ne signifie pas qu'il faut renoncer à nos liens familiaux. Non, il ne faut pas y renoncer. On irait contre les 10 commandements « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ». On irait donc contre beaucoup d'enseignements de Jésus sur le respect des parents, et il critique les pharisiens parce que eux, ils mettaient des lois pour se débarrasser des parents et de leurs responsabilités par rapport aux parents vieillissants. Jésus veut que, ne veut pas que nous l'aimions plus que nos parents quand il dit ça. Il veut que nous aimions nos parents d'un amour gratuit comme nous aimons Jésus. Il est en train de dire, si vous m'aimez comme vous aimez vos parents, vous ne pouvez pas être mes disciples. Jésus allait montrer l'exemple de devoir tout quitter, de donner priorité au règne de l'amour, au prix de sacrifier quelque peu aux relations familiales parfois. Les relations de ceux qui s'engagent à la suite de Jésus, ces relations doivent être des relations de vraie gratuité. Et la vie des disciples, c'est le laboratoire de l'expression de cette gratuité. Nous sommes ici et l'expression, la vie de disciples, c'est l'église locale. On est dans un laboratoire où on peut expérimenter la gratuité de cet amour. L'amour gratuit, l'amour qui se donne, l'amour qui n'attend rien en retour. C'est cette première exigence pour être disciple. Et à cette première exigence, Jésus ajoute cette autre exigence. Celui qui vient à moi sans haïr sa propre vie, celui-là ne peut pas être mon disciple. Alors il ne s'agit pas de se mépriser ou de dire je suis nul, je suis un zéro, même si c'est vrai. Mais à la lumière du Christ, oui, à la lumière de la parole, oui. Mais il s'agit de le faire pour mieux aimer son prochain. Notre Dieu ne nous invite pas à aimer notre prochain, il ne nous invite-t-il pas à aimer notre prochain comme nous-mêmes ? On ne peut pas aimer notre prochain si on ne s'aime pas soi-même. Ça va inversement. Et il faut retrouver cet amour pour nous-mêmes, pour aimer notre prochain de cette manière. Ça ne veut pas dire se mettre en premier, pas du tout. C'est se respecter face au péché, face aux tentations dans le monde. C'est s'aimer suffisamment pour dire non. C'est s'aimer suffisamment pour dire oui à Jésus. C'est ça, l'amour de soi-même. Et c'est cet amour-là que Dieu nous invite à avoir pour notre prochain, un amour inconditionnel. Dans la langue française, nous n'avons malheureusement qu'un seul mot pour parler du mot d'amour. Et du mot amour, et en grec, il y en a trois. Et vous connaissez ces choses, eros, philéa et agapé. Hein. Eros, c'est l'amour-passion. Ce qui est beau, hein, c'est pas quelque chose de sale. L'amour passion, c'est quelque chose de beau. Hein. L'amour philéa, c'est l'amour d'amitié, et l'amour agapé, on peut traduire par l'amour charité ou l'amour bonté. Et s'il faut haïr ceux qu'on aime, peut-être c'est parce qu'on les aime mal ou égoïstement. S'il faut se haïr soi-même, c'est que il faut apprendre à mieux nous aimer. Il y a André Comte-Sponville, qui est ce philosophe français qu'on cite parfois, bien qu'il se dise athée, hein, mais bon, il y a des choses, même une pendule arrêtée donne l'heure deux fois par jour, hein, mais j'ai pas ce mépris-là pour lui, il dit des choses vraiment très intéressantes, malgré tout. Et il dit ceci, et je crois qu'il s'est inspiré des Écritures pour le faire, qu'il connaît très bien d'ailleurs, mais qu'il ne comprend pas très bien, à mon avis. Il y aurait donc trois façons d'aimer, ou trois degrés dans l'amour. Le manque, l'éros, la joie, l'amitié, la charité. Et il se peut que cette dernière, la bonté-charité, ne soit en vérité qu'un halo de douceur, de compassion, de justice, qui viendrait tempérer la violence du manque, qu'on a dans l'éros, ou de la joie qu'on peut avoir dans l'amitié, qui viendrait modérer ou creuser ce que nos autres amours peuvent avoir de trop brutal. La bonté, charité, se reconnaît à ceci qu'elle n'a pas besoin de la souffrance de l'autre pour l'aimer, qu'elle n'a pas besoin d'être aimée pour aimer, qu'elle n'a que faire de réciprocité ou d'intérêt. Il écrit ça dans son petit traité des grandes vertus. Celui qui ne porte pas sa croix en venant à ma suite, celui-là ne peut être mon disciple. Je vois qu'il est 7h30, donc on a encore du temps. Oui, j'ai mes bonnes lunettes. Hein. Non, je serai plus très très long. Ce n'est pas la première fois que dans les écrits de Luc, Jésus nous parle ainsi. Et Pierre, après qu'il ait donné à Jésus son titre de Messie, lorsqu'il témoigne de lui, Jésus prévient ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23. Et on a souvent minimisé l'expression « porter sa croix ». Hein, ça ne veut pas dire porter sa croix. Et lui donnant le sens d'accepter, en fait, porter sa croix, c'est je dois ma croix, c'est les épreuves de ma vie. Je dois porter ma croix. Non, c'est une expression bien plus réaliste. Même si Jésus, bizarrement, quand il dit porter sa croix à ses disciples, il n'est pas encore mort sur la croix. Alors qu'est-ce que les disciples comprennent dans l'idée de porter sa croix, hein, quand il dit porter sa croix, hein, c'est vrai, les disciples disent. C'est quoi? Non, c'est pas qu'il connaissait pas la croix. Hein. Jésus va pas mourir dans quelques mois et c'est le premier qui est crucifié. Il y en a bien d'autres qui étaient crucifiés et qui étaient à cette époque. C'était un moyen de. Et porter sa croix, ça avait un sens. Hein. Quand il voyait les gens à Jérusalem ou ailleurs en Judée, c'était le moyen qu'on mettait à mort chez les Romains, l'envahisseur. Et il voyait bien des crucifiés, ça et là. Hein. Et on dit par centaines parfois. À la porte des villes pour mater des rébellions. Donc porter sa croix, ça a un sens bien littéral pour les disciples. Ça veut dire mourir. Ça veut dire mourir, aller jusque-là. Mourir à la manière de Jésus-Christ, d'être disposé dans son amour à aller jusque-là. Si vous voulez être disciple de Jésus-Christ, il faudra peut-être être allé jusque-là, à mourir. C'est pas peut-être, c'est sûr. Et je sais que bien d'entre vous sont morts. Ils l'ont exprimé dans le baptême. Cette idée de « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant que je sais que tu m'aimes et que tu as donné ta vie pour moi ?» Ben, c'est que je veux mourir, moi aussi, avec toi. Et on le chante avec toi sur la croix. C'est Romains 6, mourir avec Jésus-Christ, être enseveli avec lui, pour ressusciter avec lui. Luc nous parle de haïr son père, sa mère, sa femme, etc. Et il évoque la situation concrète des premiers disciples du Christ. Pour eux, se joindre à Jésus-Christ, c'était s'aliéner aussi sa propre famille, accepter les conditions d'être un paria parmi les Juifs. Et l'histoire nous montre comment tout au long des siècles, combien de chrétiens ont dû mourir pour leur foi. Et encore aujourd'hui, j'entendais le témoignage d'Hussein, 12 ans, turc, sur Internet, j'écoutais son témoignage, et Hussein, il se fait persécuter à l'école. Le père d'Hussein, qui s'appelle, je crois, c'est Hakim, est un enseignant, un lettré, et il enseignait le Coran. Et ne pouvant trouver les réponses à ses questions dans le Coran, il s'est tourné vers l'Évangile, et il a rencontré Jésus-Christ. Il en a parlé à sa famille, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais voilà, Hussein n'arrête pas de parler de Jésus. Et Hakim, le père, il dit, quand on parle en famille, Hussein est un réel problème pour nous. C'est un fardeau, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de parler de Jésus, et ça nous amène beaucoup de persécutions. Et un jour, il voit Hussein rentrer de l'école un peu amoché, puis il dit, mais qu'est-ce qui était arrivé? Ben, je me suis fait frapper par un camarade d'école. Et donc, il va voir le père. Et le père regarde Hakim et lui dit, c'est toi qui as enseigné ton fils comme ça, t'es qu'un mécréant. Et il commence à insulter cet homme. Et là, Hakim comprend une chose, c'est qu'il faut suivre la voie du Seigneur. Il ne faut pas se taire. Et ce petit garçon de 12 ans a eu le courage de vivre sa foi, mais de l'exprimer. Et il l'a encore. Ils sont encore en Turquie. Et j'écoutais ce témoignage d'un enfant de 12 ans qui vous donne une leçon de vie. Et il y en a plein. Il y en a plein qui nous donnent des leçons de vie. Ils vont jusque-là, jusqu'à être parias dans leur propre famille. Et certains d'entre nous, ici dans cette assemblée, ont fait l'expérience d'être rejetés par les leurs à cause de leur foi, à cause de leur compréhension des Écritures. Et ils sont restés fidèles à Jésus. La mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas une mort naturelle. Hein, ce n'est pas la fin de son existence. Jésus devait mourir sur la croix. Et le résultat, c'est bien le résultat de sa prédication. C'est parce que Jésus, il a parlé. Jésus, il a témoigné. Jésus, il a bouleversé. Jésus, il a dérangé. C'est l'aboutissement d'un conflit entre les Juifs et Jésus. Un conflit qui vient essentiellement de la vision de Dieu que voulait donner Jésus au peuple, qui était prêché par Jésus. Pour Jésus, Dieu, ce n'est pas un juge qu'il faut suivre par crainte. Non, là, c'est une vision d'un Dieu qui aime avant toute chose les hommes et les femmes qui sont ses créatures et qu'il veut appeler ses enfants. C'est aussi ce qui engage Jésus à ne pas user de violence envers ceux qui le rejettent. Celui qui n'agit qu'avec bonté court le risque d'être rejeté. Non pas seulement par ceux qu'il dénonce, mais aussi parfois par ceux qu'il défend. Être rejeté, être opprimé pour Jésus. Pour lui, il ne peut y avoir d'autre réponse que de livrer sa vie par amour. Et c'est un acte délibéré, parce que Jésus dit « Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même de cette vie. » C'est un acte délibéré suite à la violence et à la haine qui peuvent détruire la vie physique, mais pas notre vie spirituelle. Il faut savoir que la violence, elle détruit d'abord, en premier lieu, la morale du violent. Et le sort de Jésus devra être aussi le sort des disciples. Porter sa croix. Qu'est-ce qui vous touche dans cette existence? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? À quoi vous êtes appelé pour suivre Jésus-Christ? Un appel particulier peut-être. C'est quoi votre croix? On en a certaines spécifiques. Qu'est-ce que vous voulez annoncer dans ce monde de particulier? Qui voulez-vous défendre? Quelle justice êtes-vous appelé à mettre en place dans ce monde? En un autre temps, Jésus dira: qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. La route proposée par Jésus, c'est un combat difficile contre toute forme de violence. Et celui qui propose ce message de bonté, c'est aussi un message de réconciliation. Ça n'exclut pas le combat contre l'injustice dans ce monde. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus, dit Jésus dans le sermon sur la montagne. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi pour aller jusqu'au bout? S'engager à la suite de Jésus, ça implique de réfléchir. Ça implique de s'asseoir et de se poser la question: est-ce que je suis prêt à aller jusque-là? Pas faire à moitié, quoi. Comme je disais, c'est la médiocrité, c'est la moisissure de l'âme. C'est un texte engageant. C'est un texte qui dérange et qui vous dérange quelque part, parce que ça me dérange aussi et je sais que ça dérange quand on l'entend. Ce texte radical Alors cela va un petit peu à l'encontre hein, de s'arrêter, de réfléchir, est-ce que c'est bien raisonnable tout ça Surtout avec ce qui va suivre, quiconque d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Si on calcule à la moitié, à la manière des hommes, on va dire non, c'est pas raisonnable. Comme le jeune homme riche qui s'en va tout triste. C'est pas raisonnable. On aurait pu s'attendre à autre chose, comme un conseil de se préparer humainement, moralement, intellectuellement, lisez bien les Écritures, lisez bien la Torah, même si c'est important de le faire. Non, le conseil, c'est de renoncer à ses biens, et ça retentit plusieurs fois dans l'Évangile. Hein, on le trouve aussi dans la petite parabole du trésor caché. Un homme le trouve, et dans sa joie, il va, vend tout ce qu'il a, et achète ce champ. Et dans la rencontre, je l'ai dit, avec le jeune homme riche, il dit, une seule chose te fait défaut, tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor en Dieu. Vends tout. Vends tout, ça signifie rien si cela n'est pas pour le donner aux pauvres, pour que ça serve. Le trésor enseigné par Jésus, c'est la gratuité avec laquelle nous devons nous aimer. Elle est un trésor parce que c'est là le bonheur véritable. Paul dira en Galates chapitre 2, verset 20, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi » en parlant de Jésus. Et il traduira d'une manière incroyable les exigences que ça a impliquées dans sa vie. En Philippiens chapitre 3, verset 4 à 10, il dit « J'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même, de la race d'Israël, Hébreu, fils d'Hébreu, pour la Torah, je suis pharisien, devenu irréprochable pour la droiture qu'on trouve dans la Torah. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme dommageables à cause de Christ. Je considère que tout est dommageable en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus Messie, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout comme à rejeter afin de gagner Christ. » Et d'être trouvé en lui, non plus avec une droiture à moi qui vient de la Torah, mais avec celle qui vient de ma foi au Christ, la droiture qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Je vais conclure. Quand nous sommes blessés par quelqu'un, par un frère, une sœur, par l'existence, est-ce qu'on est prêt à s'oublier soi-même, à se donner totalement, à renoncer à notre ego, à notre moi, pour pardonner et chercher la paix? Et on le peut si l'amour de Jésus-Christ, c'est notre vraie passion. Renoncer à nous-mêmes à cause de Jésus-Christ. Si vous dites « j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire », c'est souvent mon cas. Une sœur, un jour, m'a téléphoné, m'a crié « viens me voir ». Et elle a crié hein, « j'ai un goût pour le suicide, viens me voir ». Et elle pleurait beaucoup et je suis allé la rencontrer et je l'écoutais longuement. Elle avait besoin juste de vomir sa détresse. Et puis moi, j'étais, vous savez, écouter l'autre, c'est pas facile, hein. C'est pas toujours épanouissant. Et j'ai d'abord ressenti que je me sentais complètement incapable de lui venir en aide. Et je trouvais pas ça facile et je trouvais pas ça épanouissant. Et j'avais l'impression même de perdre mon temps. Être là, perdre mon temps, j'aurais pu faire autre chose. Et là, j'ai compris qu'en perdant, et j'étais avec Marie-Léna, qu'en perdant un peu ma vie, en donnant un peu de moi-même, par l'attention portée à l'autre, je permettais à l'Esprit de Dieu la possibilité de la résurrection, d'un relèvement, d'un retour pour des jours meilleurs. La possibilité pour ma sœur de reprendre goût à la vie, de reprendre son souffle, de se relever éventuellement. Et c'est souvent en aidant l'autre à revivre que nous vivons nous-mêmes notre propre résurrection. Mais c'est aussi un enseignement, et ce sera la fin, radical dans le sens où il nous invite aussi à gérer nos biens selon Dieu. Alors, je vais reprendre cette phrase, à gérer les biens de Dieu qu'il nous confie, de la manière dont il veut que nous les gérions. Nous allons avoir, et ça s'adresse au, ça peut s'adresser aussi plus largement, aux non-membres de cette assemblée, mais spécifiquement aux membres de l'assemblée aussi. Pensez à, vous savez, il y a des actes concrets qu'on met comme ça, comme pardonner, décider de pardonner, se décider, je décide de pardonner, c'est ma décision et je vais le faire. Je décide, je m'engage à l'aider, je prends cet engagement, je vais être son appui pendant un temps, mais je vais être là quand il ou elle aura besoin de moi. Et puis, la troisième chose, c'est cet argent, je décide de le consacrer. Je décide de consacrer cette somme pour le service, pour ton service spécifiquement. Je ne déciderai pas moi ce que je vais en faire, c'est toi qui vas décider, Seigneur. Mais je déciderai cette somme pour l'année. Ce sont des actes concrets, pas pour le bonheur, qu'est-ce que Dieu aurait besoin de notre argent, mais pour notre bien-être à nous-mêmes. Nous avons besoin de donner. Nous allons avoir la semaine prochaine la distribution des petits papiers, vous savez, où on va donner nos engagements annuels pour la collecte de l'Église, pour la bonne marche de cette assemblée, mais aussi pour les projets que nous avons, et projets vis-à-vis de ceux qui veulent, ceux qui sont dans la difficulté, mais aussi pour annoncer l'Évangile à ceux qui en ont besoin, pour venir en aide à ceux qui annoncent la parole de Dieu. Et je vous engage à réfléchir. Pas à réfléchir d'une manière en disant, non, à poser un engagement et à noter cet engagement sur un bout de papier qui vous sera distribué dimanche prochain et que vous mettrez dans le panier de la collecte. Réfléchissez à une somme que vous voulez mettre, et une somme annuelle. Et vous la donnerez tous les mois, toutes les semaines, comme vous voulez le faire, mais pour que nous puissions faire un budget. Ensuite, en assemblée, tout le monde est invité de cette assemblée. Le mardi soir, pas ce mardi, c'est ce mardi-ci, d'accord. Donc, tout le monde est invité ce mardi-ci, et on va parler déjà du budget. Donc, on n'aura pas le temps de l'établir, parce qu'on n'aura pas les petits papiers, mais on va parler de ce budget-là. Vous êtes tous invités à y participer. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour cette parole qui nous éclaire, qui nous challenge dans notre vie de disciples. Seigneur, nous voulons être appelés tes disciples. Nous voulons marcher derrière toi. Nous voulons te suivre, Seigneur, te regarder, t'écouter, passer du temps avec toi. C'est notre désir dans nos cœurs et nous sommes ce dimanche-là réunis ensemble parce que nous voulons le faire. Seigneur, tu mets en nous le bon vouloir et le faire. Par ton Saint-Esprit, donne-nous la capacité d'aller jusqu'au bout de nos désirs pour te servir. Que nous puissions être à ton écoute, Seigneur, nous laisser guider par toi, nous laisser transformer par toi, nous asseoir, Seigneur, quand il faut, pour nous laisser remplir par ton amour. Je suis, Seigneur, dans l'incapacité de vivre ces choses. Et nous le sommes tous, Seigneur, sans ton Esprit Saint. Apprends-nous à renoncer à nous-mêmes pour nous engager dans la vraie vie que tu nous proposes. Une vie d'abondance, Seigneur. Une vie extraordinaire, dont on ne soupçonne même pas, Seigneur, la profondeur des relations que nous pouvons avoir, des joies que nous pourrons ressentir, de la paix profonde que tu veux nous donner. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.